France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 11 janvier. Très bon réveil à notre écoute. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Valérie Lavalard à la technique. Bienvenue à vous dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral et au plaisir de la musique. Voici le menu du jour. À 8h, Christophe Chassol et Léonore, notre jeune pianiste de 9 ans qui est notre invité, nous ferons découvrir une valse de Chopin. À 8h20, notre reportage avec Marie Jiquel. Nous irons faire un saut à Miami, aux États-Unis, à la découverte de l'école Frost. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Duport nous parlera de chansons comme armes de dérision massive. Notre invitée sera Fabienne Voisin, directrice de l'Orchestre National d'Île-de-France. Et puis enfin, en toute fin d'émission, Roselyne Bachelot nous parlera de l'opéra Wozzeck d'Alban Berg.
Thank you.
The Call, un extrait de 53, 15e disque du pianiste Jacques Terrasson. En quelques 30 ans de carrière, superbe recueil de pièces originales. Alors pourquoi 53 hein, pour le titre? Tout simplement parce qu'il a conçu et enregistré cette musique au cours de sa 53e année. Un disque en forme de confession intime, transfiguré par un art du trio, par un trio. Le trio, nous dit-il, c'est la formule où je me sens le plus libre et qui m'apparaît la plus riche en potentialité créatrice. Eh bien, c'est ce qu'a dû penser Mozart à son époque, puisque déjà au XVIIIe siècle, il écrivait, lui, des trios avec piano. Il en a écrit 6 au total, 6 trios destinés à être joués entre amis. Le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, le violoncelliste Kian Zoltani et le violoniste Michael Barenboim nous proposent d'ailleurs en cette rentrée un très bel enregistrement tout à fait réussi avec l'ensemble de ces trios du compositeur enregistrés live à la salle Pierre Boulez à Berlin. En voici un mouvement. Thank you. Le premier mouvement du premier trio avec piano de Mozart, avec ce trio de charme, Daniel Barenboim, Michael Barenboim et Kian Zoltani.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous En Musique, un conte musical de Sophie Caron et Maya Guinard qui vient de paraître chez Nathan et qui nous fait découvrir les pouvoirs bienfaisants de la musique tout en écoutant l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Laine. C'est la saxophoniste, chanteuse et compositrice française Lisa Kate Béraud qui en signe la musique. Et ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il propose en parallèle à l'histoire des activités de découverte que vous pouvez faire avec vos enfants de 3 ans et plus, découverte de la musique donc, comme par exemple comment faire des percussions corporelles, comment se relaxer avec des sons apaisants ou encore Comment improviser? Voici donc ce matin pour vous un premier exercice à faire à la maison, un extrait de ce livre disque en musique.
Invente avec ta voix. Improviser, ça veut dire créer une mélodie ou une chanson sur le moment, sans préparation, comme ça nous vient. C'est un peu comme lorsque tu inventes une danse avec ton corps, mais cette fois-ci, c'est avec ta voix. Ou bien avec un instrument de musique, si tu en as un avec toi. Quand tu étais bébé, tu improvisais déjà en babillant et en gazouillant. Chanter, c'est très naturel. Parfois, on se surprend à chantonner, en se promenant, sous sa douche, ou dans le bus. Écoute ces drôles de syllabes.
Dip-doua, padabalia, dip-doua, padabalia, dip-doua, padabalia, dip-doua, padabalia, odidou dip-doup, dip-doua, odidou dip-doup, dip-doua, odidou dip-doup, 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 dip-doua, odidou dip-doup, dip-doua.
Répète-les, doucement, comme un chuchotement. Fort, c'est comme si tu voulais qu'on t'entende très loin.
Dip-doua, padabalia. Dip-doua, padabalia.
Aigu, comme si tu te mettais sur la pointe des pieds avec ta voix. Grave, un peu comme un éléphant qui se balance. Rapide, imagine que tu es un lapin très très en retard. Lentement, un vrai escargot en vacances. À toi maintenant.
Une petite leçon en musique avec un extrait de ce livre-disque qui vient de paraître chez Nathan, son titre « En musique ». Un conte musical de Sophie Caron et Maya Guinard à offrir à vos enfants ou aux enfants des autres d'ailleurs pour tester toutes ces leçons mises en musique par la saxophoniste, je le rappelle, et chanteuse Lisa Cadbero. On va poursuivre avec un grand pianiste brésilien, Nelson Frère, qui fête cette année ses 75 ans et qui nous offre pour l'occasion un nouvel album. Son titre encore, des bis donc, qu'il a choisi personnellement parmi une trentaine de pièces qu'il a interprétées dans sa carrière. On trouve ainsi dans ce disque la mélodie de Gluck de Sgambati, le Nocturne de Paderewski ou encore des œuvres de Purcell, de Rachmaninov, de Shostakovich. Mais également cette très très belle pièce Navara d'Isaac Albéniz.
Thank you.
Nelson Frère ici au piano pour ce titre Navara d'Isaac Albéniz, un extrait de ce nouveau disque Encore qui paraît sous le label Decca. Ce matin, je vous offre vos places pour le concert des révélations des victoires de la musique classique qui aura lieu le 15 janvier prochain au studio 104 de la Maison de la Radio à 20h30. Vous pourrez découvrir sur scène les 6 nommés dans les catégories révélation artiste lyrique et révélation soliste instrumentale cette année. Parmi eux, le violoniste Théotime Langlois de Swart, qui fait notamment partie de l'ensemble Jupiter, des Arts Florissants ou encore des Ombres. Il est également membre fondateur du Consort, l'ensemble du claveciniste Justin Taylor. Alors pour tenter votre chance et assister à cette soirée, à ce grand concert qui aura donc lieu le 15 janvier prochain à 20h30 ici à la Maison de la Radio, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être 2 places dans votre boîte aux lettres. Alors ce matin, je vous propose de deviner de quel instrument jouait le compositeur baroque Arcangelo Corelli, dont nous allons entendre une œuvre dans une poignée de secondes. 3 propositions. Est-ce de la guitare électrique, du violon ou du djembé? Si vous avez la réponse à cette question, rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. La sonate en sol majeur opus 2, numéro 12 d'Arcangelo Corelli, interprétée ici par le consort dont fait partie Théotime Langlois de Swart, nommé dans la catégorie révélation soliste instrumentale des prochaines victoires de la musique classique. Je vous rappelle que vous pouvez tenter votre chance pour remporter des places pour le concert de ces révélations. Ce sera le 15 janvier au studio 104 de la Maison de la Radio.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny. George Gershwin, Leonard Bernstein, mais aussi Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber. La comédie musicale prend ses quartiers chaque dimanche sur la 42e rue. Une heure pour plonger dans son histoire, ses musiques, rencontrer ses artistes, découvrir ceux qui la fabriquent, avec aussi chaque mois un concert en direct. La 42e rue, proposée par Laurent Vallière, est ouverte chaque dimanche à 13h sur France Musique et quand vous voulez en podcast sur francemusique.fr.
Tous les dimanches, de 16h à 18h, je vous attends dans la tribune des critiques de disques sur France Musique. 2 heures de débat, de passion, de comparaison, autour de 6 versions d'un chef-d'œuvre de l'histoire de la musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr. À dimanche, 16h.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là, dans, oui.
Vous allez l'adorer.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Musique. C'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Et c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Christophe Chassol pour sa chronique. Bonjour Christophe.
Eh bien bonjour Saskia.
Et bonjour et re-bienvenue Léonore.
Merci.
Quel plaisir de t'avoir avec nous, Léonore. Tu as 9 ans, tu fais du piano depuis 4 ans et tu nous accompagnes tout au long du mois de janvier avec Christophe. La semaine dernière, c'était Prokofiev et puis c'est Dissonance et puis tu nous avais joué du Mozart aussi. Eh bien, aujourd'hui, tu nous as apporté un morceau. De quoi s'agit-il, Léonore ?
Valse de Chopin.
En quelle tonalité ? Elle s'appelle valse en La mineur.
Oui, c'est ça.
C'est le nom d'un accord, La mineur. Tu connais la mineur, l'accord ?
Non, c'est pas trop bien.
Bah, la mineur, ça commence par La.
Oui.
Ensuite, tu fais Do. Et puis Mi. Si c'était La majeure, ce serait La, Do, dièse, Mi. Mais là, c'est La mineur. Et bah écoute, tu nous joues le début, en tout cas ?
Là,
bravo, vraiment bravo. Alors j'ai rien à te dire, tu le joues parfaitement quoi. Juste, ce que je peux te montrer, c'est comment on peut l'interpréter. C'est-à-dire, là j'ai vu que t'as fait le crescendo à la fin, oui. Tu l'as fait, t'as pensé à tout. Mais alors il y a une façon de jouer ça. Ce que j'aimerais te donner, c'est l'idée qu'on peut étirer le temps. C'est-à-dire, on peut jouer lentement, rapidement, une fois qu'on connaît la note de mélodie avec la note de basse. Alors par exemple, je vais te le chanter en te jouant les accords. Donc par exemple, mi, la, si, do, do. Tu peux attendre. Ré, mi, fa. Tu peux rajouter tout le temps que tu veux quoi. Si, ré, la, si, fa. Et là tu t'attends, tu vois. Mi, fa, mi, ré, mi. La, si, do, do. Et alors tout ça, en fait, c'est une fois que tu connais ta main gauche, tu connais bien ta main gauche, tu la connais très bien, donc tu peux faire. Et donc, c'est-à-dire que tu peux prendre le temps de jouer la mélodie, de te la chanter. Moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est peut-être joue-moi la main gauche et moi, je vais te chanter la mélodie et on va essayer de jouer ça ensemble. Et de ralentir en même temps. Vas-y. Mi, la, si, do. T'attends un petit peu. Ré, mi, fa. Attends un petit peu. Si, do, ré, la, sol, fa. Mi, fa, mi, ré, mi. Attends un petit peu. Maintenant plus fort. La, si, do, do. Ré, mi, fa. Et puis si, do, ré, la, sol, si, do. Voilà. Alors maintenant essaye-toi de le jouer. Essaye-toi de le jouer avec la main droite, la main gauche, mais prends ton temps. Tu vois, fais-nous écouter la mélodie. Tu peux prendre ton temps. Oh, super. Attends un petit peu. Attends. Tu vois, laisse résonner là. Tu peux laisser résonner la note. Tu peux reprendre la si do ré la sol fa mi fa mi ré mi.
Liberté ou de l'espace, en tout cas, par rapport à une partition qu'on
voilà,
a déjà
écrite. Ça s'appelle interpréter une partition. Parce que tu sais, il l'a écrite, il a donné des indications, mais on peut faire ce qu'on veut, en fait. Tu vois, on peut faire...
T'aurais une autre idée, toi, Léonore ?
Je ne sais pas.
Ah, il y a les dissonances, regarde.
Merci beaucoup pour cette valse, Léonore, que tu as super bien jouée. Et puis, on vous retrouve tous les deux, bien évidemment, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Bonne semaine à tous les deux.
Bonne semaine, Saskia.
Bonne semaine.
Thank you.
La grande valse brillante de Frédéric Chopin, arrangée pour orchestre par Igor Stravinsky. On écoutait ici Andrew Litten à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Bergen.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Bon, n'en fais pas.
Dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission pratiques amateurs. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de la violoniste écossaise Nicola Benedetti. Elle a 32 ans. C'est une soliste violoniste reconnue sur la scène internationale, mais c'est aussi une artiste engagée. Rien qu'en 2019, elle a croisé la route de plus de 200 étudiants pour partager sa passion. Elle vient d'ailleurs, il y a quelques jours, de lancer sa propre fondation, la Benedetti Foundation, qui propose des ateliers d'éducation musicale en Angleterre pour les plus jeunes. Il y a quelques jours, elle a ainsi réuni au Royal Concert Hall de Glasgow plus de 350 jeunes musiciens venus des quatre coins du pays. Il y a même des enregistrements de disques à la clé. Et si vous êtes vous-même violoniste ou tout simplement curieux, je vous invite à suivre cette artiste Nicola Benedetti sur Instagram, puisqu'elle propose aussi, pour ceux qui se trouvent un petit peu plus loin, et sous le hashtag WithNiki, des courtes vidéos sous forme de leçons. Vous saurez tout sur le vibrato, sur comment développer un son, sur des exercices indispensables à la survie de tout violoniste en consultant ces vidéos. J'aime la musique et le violon depuis que j'ai 4 ans, mais à chaque fois que je participe à une expérience musicale collective de masse, cela renforce mon bonheur et mon dévouement à la musique. Je n'ai qu'une chose à dire. Merci Nicola Benedetti.
Thank you.
Le final énergique de ce premier concerto pour violon de Max Bruch. On écoutait la violoniste écossaise Nicola Benedetti, entourée par l'Orchestre Philharmonique Tchèque et Jakub Rusa à la direction.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Et en ce samedi matin, que diriez-vous d'une balade sur une plage interminable et ensoleillée toute l'année, le tout en dégustant un sandwich au homard? Oh Marie, direction Miami, pour surtout découvrir une autre façon d'apprendre la musique classique. Marie, vous vous êtes rendue à la Frost School of Music de l'Université de Miami. Elle se classe parmi les 20 meilleures écoles de musique du monde. Et nous allons sentir, elle est très orientée business.
Saskia, bienvenue dans une école qui vous en met plein la vue avec un campus gigantesque pour accueillir 16 000 étudiants, un lac avec des poissons volants et une piscine olympique. Une université où les jeunes jouent paisiblement au soleil. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Claire, une Française en dernière année de doctorat. Elle a posé ses valises et sa clarinette aux États-Unis il y a 10 ans.
Il y a plus d'opportunités ici. Moi, je ne viens pas d'une famille de musiciens. J'ai quand même fait tout le conservatoire et tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas été poussée comme certains enfants de musiciens dans la bonne direction. Bon, la clarinette, c'est peut-être moins compétitif quand même que le piano ou le violon, mais c'est vrai qu'ici, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Par contre, effectivement, pour le solfège, quand je suis arrivée ici, c'est différent. Et moi, j'ai eu de la chance que ma prof était turque et avait étudié aussi en Allemagne et en France et a fait qu'avec moi, elle a fait que du fixe do.
Voilà, alors c'est ce qu'il y a, une petite mise au point, hein. Le fixe do, c'est notre système de solfège à nous. Et eux, là-bas aux États-Unis, ils utilisent le movable do, pardon pour l'anglais. Donc il ne se fie pas au nom de la note, mais à sa position dans la gamme. Donc oubliez les dièses et les bémols. Alors là-bas, à disposition des étudiants dans cette école du futur, des laboratoires pour bidouiller les sons et s'aventurer dans de nouvelles techniques, un programme de jazz très réputé aux États-Unis et un cours de musique thérapie très sérieux et très populaire pour aider les patients dans leur rémission. Ajouter à cela du matériel de pointe. Bref, l'école explore tout ce que la musique peut apporter et rapporter. Claire a pris l'option business programme et en parallèle a lancé un quintet au sein de l'école pour savourer son plaisir, la musique de chambre et gagner son pain.
On a fait des photos, on fait des trucs pro, on fait des sites web et on commence à se promouvoir, on fait des concerts, on a des gens riches qui viennent et qui peuvent potentiellement nous aider, des genres de trucs comme ça où on apprend vraiment à lancer sa marque. Vraiment, ils nous aident bien ça. Après, à trouver du travail, c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense qu'on est bien préparé au monde actuel qui change en musique particulièrement. Surtout, je ne sais pas vraiment en France, enfin, je rentre tous les ans quand même, mais en tout cas ici, ça se développe et moi j'aimerais bien, enfin par exemple artiste de studio et tout ça, on apprend à faire ce genre de choses, à enregistrer avec le clic et à savoir que bon, quand tu enregistres, c'est une fois, c'est pas deux fois parce qu'ils attendent, ça coûte de l'argent, donc c'est toutes les choses qu'on apprend à faire que je pense que dans d'autres universités on n'apprend pas forcément.
À la tête de l'orchestre de la Frost School, on retrouve le chef d'orchestre Gérard Schwartz, ancien élève de Pierre Boulez, qui a dirigé l'orchestre symphonique de Seattle pendant près de 20 ans.
Et aujourd'hui, il travaille avec ses élèves la 7e symphonie de Mahler dans la salle de spectacle immense de l'université.
Quand j'étais jeune, je pouvais identifier quel orchestre américain passait à la radio. Je reconnaissais au son des musiciens si c'était l'orchestre de Chicago, Philadelphie ou New York. Je pouvais différencier le son d'un orchestre français, allemand ou anglais. Il y avait une identité musicale. Par exemple, les Anglais avaient un hautbois très particulier, les Allemands aussi. Mais petit à petit, les orchestres se sont ouverts.
Et les places les plus importantes dans les orchestres américains, comme les Vents, ont été prises par des Français. Je pense par exemple pour la première flûte de l'orchestre de New York, qui est occupée par un Français. Je pense aussi que l'un des hautbois de Philadelphie est français. C'est ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu es le meilleur, tu as le boulot.
Voilà, Gérard Schwartz, qui, vous l'avez senti, hein, est très impliqué dans l'ouverture sur le monde. Il nous a reçus dans son bureau, il nous a livré quelques confidences sur son ami Pierre Boulez et nous a surtout expliqué pourquoi il avait accepté de travailler pour cette université.
L'école est vraiment exceptionnelle pour plusieurs raisons. Par exemple, elle a compris que tout était une question de leadership. Par exemple, si vous êtes un bon leader qui n'a pas peur de l'excellence, qui se bat pour le meilleur, vous pouvez vraiment accéder à l'excellence. C'est l'attitude ici et c'est fantastique.
Mais l'autre attitude de cette école, c'est de penser que chacun de ses étudiants pourra faire sa vie dans la musique. Voilà, une vision très compétitive de l'enseignement. Vous l'avez senti, Saskia. Enfin, autre particularité américaine, dès leur entrée à l'école, les étudiants doivent apprendre à jouer du piano. Très utile aux étudiants qui se spécialisent dans la musique pour jeux vidéo, un autre programme inédit proposé par l'université.
Un aperçu de l'apprentissage large, donc, de la musique classique à la Frost School de Miami. Merci beaucoup, Marie, pour ce reportage sur place. On vous retrouve bien la semaine prochaine dans Musique Matin.
Avec plaisir et dévotion.
J'y compte bien. Bonne journée. We'll be right back.
C'était la mort de Tybalt, extrait de la première suite Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, interprétée par l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne, Claudio Abbado, lors du premier concert de cet orchestre sous la baguette du chef italien. C'était au Festival de Salzbourg en 1979. Musicien âgé de 16 à 24 ans, issu de toute l'Europe, regroupé dans cet orchestre qui existe d'ailleurs toujours, orchestre originellement basé à Londres, mais qui a déménagé en Italie dès qu'il a été question du Brexit. Italie, pays de cœur du directeur musical fondateur de cet orchestre, Claudio Abbado. Un orchestre à suivre, dirigé d'ailleurs actuellement par Vassili Petrenko. Et c'est l'heure de la chronique de Marc-Olivier Dupin, comme chaque samedi. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Aujourd'hui, je crains que vous ne soyez pas complètement politiquement correct.
Oui, c'est-à-dire que la musique parfois est une arme redoutable contre la politique. C'est la fonction du fou du roi, finalement. Et de tout temps, il y a eu de la musique contre les politiques, si on peut dire. Et on va commencer par un premier extrait, une légitimation historique, celle de Le Sire de Fichtoncamp de Antoine Louis. 1870 contre Napoléon III.
Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout, partout, partout. Mais tout ça c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout, rien du tout. C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau, à sa peau. Un jour, il voit son sabre le gêne. Aux ennemis, il en fait cadeau. Cadeau, cadeau.
Mais Marc-Olivier, trouve-t-on des polyphonies dans ce genre ?
Oui, parce que là, on est un peu loin du chant choral, en effet. Mais aujourd'hui, on trouve des choses fantastiques sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a de quoi s'amuser, je pense.
Absolument. Et je voudrais partager avec vous quelques moments extraordinaires. Le premier étant un chœur de Washington qui chante, qui décrit ce qu'est l'impeachment de Donald Trump, tout ça sur la musique d'un cantique de Noël.
Impeachment and divide a country.
On the second day of Christmas, Congress came to me.
Two leaders phoning.
An impeachment and divide a country. On the third day of Christmas, Congress came to me.
Mais d'autres causes politiques et humanitaires mènent aussi à cette forme de créativité. Par exemple, un chœur canadien dans un remix de Sting contre Poutine, contre l'homophobie et la restriction des libertés, chante un texte absolument magnifique. Ce chœur canadien donc chante sur un remix de Sting, et il y a beaucoup de remix de Sting, curieusement, qui ont servi à des pamphlets politiques contre Poutine, contre toutes
c'est
sortes de
choses.
Oui, surfez, vous verrez. Et pour finir, un chef-d'œuvre contrapuntique des déçus du Brexit, avec une fugue parfaitement structurée, développée, élaborée, que nous allons entendre. Voilà de quoi inciter les compositeurs d'aujourd'hui à écrire des œuvres chorales.
Mais je suis sûre qu'avec la vie politique française, en plus, il y aurait de quoi faire.
Ça ne manquerait pas de sujet, en effet.
Merci beaucoup Marc-Olivier. Et toutes ces vidéos, eh bien, on mettra les liens sur la page de votre chronique sur francemusique.fr pour pouvoir aller décrypter ces textes plus en profondeur. Merci beaucoup Marc-Olivier et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Howard Chalet ici au piano pour ce rondo, troisième et dernier mouvement de la sonate opus 9 numéro 1 de Muzio Clementi. Merci de nous rejoindre sur France Musique et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Fabienne Voisin.
Bonjour Saskia Deville.
Bienvenue dans Musique Matin, on est ravie de vous recevoir ce matin sur France Musique. Vous êtes directrice générale de l'Orchestre National d'Île-de-France, orchestre qui existe déjà depuis 1974, 95 musiciens permanents, chaque saison une centaine de concerts. Vous avez l'air très fière, Fabienne Voisin.
Je pense que vous savez tout, oui, c'est ça.
Je suis très fière,
oui, de cet orchestre, puisque c'est un orchestre qui mène une mission qui est tout à fait altruiste et généreuse. Et ça se ressent aussi dans la mentalité des musiciens.
Et ça se ressent aussi parce qu'on parle d'orchestre nomade. Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore bien l'orchestre, de quoi s'agit-il ?
Orchestre nomade, ça veut dire qu'il n'a pas de salle à lui, bien qu'il soit résident, et on en est aussi très fiers, à la Philharmonie de Paris pour toute sa saison parisienne. Il donne tous les concerts qu'il donne à la Philharmonie de Paris, partout en Île-de-France. D'ailleurs, son credo, c'est partout et pour tous en Île-de-France. C'est-à-dire qu'il fréquente à peu près 60 scènes différentes à l'année, ce qui donne une capacité d'adaptation des musiciens assez considérable, en taille de scène, en acoustique, qui sont également différentes. Et on sait que c'est bien quelque chose qui est un outil de travail aussi pour fonder le son d'un orchestre. Donc cette capacité-là, ils l'ont éprouvée depuis longtemps, depuis 1974. Et puis aussi dans la programmation, puisque ça nécessite de programmer pour les grands plateaux et puis pour les petits plateaux. Ce qui fait qu'on est en capacité de se dédoubler pour aller dans les toutes petites scènes et même au fin fond de l'Île-de-France, puisque c'est tous les territoires, y compris en zone rurale, ce qu'on appelle d'une façon assez prétentieuse à Paris, les zones rurales qui pour nous sont les zones habituelles où on peut aller. Ce qui fait qu'on roule beaucoup, mais on va partout, au plus près, en proximité, ce qui fait de cet orchestre un orchestre assez populaire, puisqu'il emporte 4 siècles de musique, c'est sa mission, au plus près de là où habitent les franciliens. Donc c'est l'orchestre de la région Île-de-France, l'orchestre des franciliens. Alors oui, j'en suis assez fière.
Mais vous avez bien raison. Reste-t-il encore des zones à investir, des publics à conquérir en Île-de-France, Fabienne Voisin ?
Oui, toujours. Et puis on a à cœur de partager cette passion, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le goût de donner, de transmettre cette passion pour son métier, parce qu'il y a 9 métiers différents dans un orchestre, vous le savez ici, puisque vous avez 2 orchestres à la maison, c'est une fierté que nous avons aussi à transmettre, parce qu'il n'y a pas que les musiciens qui font de l'action culturelle, parce que vous savez que c'est l'une des spécificités au-delà de cette mission nomade que vous avez décrite, puisqu'il est unique en Europe, il y a cette deuxième singularité qui est l'action culturelle. Et donc nous transmettons le goût d'écouter, le goût de s'écouter par des modules participatifs qui font participer les enfants, les parents, de 0 à 99 ans. D'ailleurs c'est Marc-Olivier Dupin qui avait créé cette saison de l'action culturelle, on le remercie, depuis on l'a évidemment considérablement développé, notamment ces dernières années à destination des lycéens. Et cette année, on développe des ateliers à partir de 0-3 ans et pour les mamans enceintes. Vous en connaissez
bien
quelque chose.
Mais oui, un tout petit peu, je pense que je vais venir faire un tour. Évidemment. J'aimerais qu'on dise un mot aussi sur cet événement, parce que c'est un événement quand on change de directeur musical, de chef principal. L'arrivée de Keith Scaglione, qui est là déjà depuis quelques semaines, hein, depuis le mois de septembre évidemment, à la tête de l'orchestre, à la suite d'Enrique Mazzola, qu'on connaît bien aussi sur France Musique. Un nouveau chef, j'imagine que c'est une nouvelle alchimie à trouver également.
Ah oui. Oui, et puis comme vous le dites, Saskia, c'est un moment extrêmement fort dans un orchestre, parce que après le tempérament que nous avait apporté Enrique Mazzola, il fallait quelqu'un qui puisse être évidemment différent, qui puisse épouser la mission territoriale de l'orchestre, cette envie d'aller partager avec tous le répertoire symphonique, de le transmettre, de le faire ressentir, de l'éprouver. Il fallait quelqu'un qui soit généreux. Et bien, on a trouvé quelqu'un qui était sympathique d'abord, il a une qualité phénoménale, il distribue l'harmonie, il met en harmonie les gens, c'est phénoménal de le voir quand il arrive. Il est arrivé mardi dernier pour les répétitions, puisqu'on recommence une série avec lui en ce moment même. Il est charismatique, il a quelque chose de brillant. Il a appris l'allemand puisqu'il s'est installé il y a quelques années en Allemagne après avoir débuté une très forte carrière aux États-Unis. Il a fait le choix de venir s'installer en Europe. Il a appris l'allemand en 6 mois. Il y a fait des conférences de presse de façon totalement courante. Je ne sais pas si vous avez pratiqué l'allemand. C'est pas une langue qui est si facile à apprendre. Et il est en œuvre, en marche pour apprendre le français en ce moment, ce qu'il fait de mieux en mieux. Il est généreux. Bref, on y trouve tout à fait notre compte. Il a une façon de communiquer avec les musiciens. Il travaille très rapidement. et très précisément. Et on est très content de cette première séquence, puisque, comme vous le dites, il a pris ses fonctions en août, même s'il a préparé la saison depuis un an. On a une gourmandise formidable avec lui à partager et à construire les saisons à venir.
Un extrait du premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven avec l'Orchestre National d'Île-de-France et quelqu'un de sympathique à sa direction, l'ancien directeur musical, chef principal Enrique Mazzola, qui a laissé sa place désormais à Keith Scaglione, nouveau chef principal directeur musical de l'orchestre. Fabienne Voisin, merci d'être avec nous ce matin, je rappelle. Vous êtes directrice générale de l'Orchestre National d'Île-de-France. Beethoven, il va en être question cette année 2020. Vous ne pouviez pas faire l'impasse sur le personnage.
Et non, on ouvre cette saison pour proposer à toutes les scènes en Île-de-France d'accéder à Beethoven. Et on ouvre donc cette saison Beethoven hier soir à la Philharmonie. Le premier concert avait lieu avec un jeune pianiste qui se produit pour la première fois en France, Federico Colli, avec la symphonie numéro 4 et le concerto pour piano numéro 4, qui sera donc diffusé en Île-de-France jusqu'au 19 janvier. C'est d'ailleurs l'un des axes proposés par Keith, le romantique allemand, où est-ce qu'on met Beethoven, évidemment. Enfin, la question reste ouverte. En tout cas, c'est un compositeur qu'il aime à jouer, ainsi que d'autres de ses axes qu'il développe au cours de ses saisons à venir.
Keith Scaglione est-il investi justement dans toute cette action culturelle dont vous nous parliez, Fabienne Voisin, que ce soit ses ateliers pour les enfants de quelques mois à peine jusqu'à 3 ans ou peut-être un peu plus âgés? Est-ce que c'est quelque chose qu'il souhaite lui aussi investir à la tête de l'orchestre?
On a beaucoup de chance parce qu'il a au cours de ses expériences aux États-Unis, lorsqu'il était chef assistant de Alan Gilbert au New York Philharmonic, il a développé des actions avec l'orchestre là-bas, et il nous apporte ce savoir-faire. C'est un jeune chef, il a 37 ans, je le rappelle, et il apporte aussi une vivacité contemporaine qui est assez vivante à mettre en œuvre. Donc il est investi. D'ailleurs, il dirigera une des académies à destination des lycéens qu'il fera chanter, des lycéens franciliens qu'il fera chanter en fin d'année.
Comment ça se passe si on est professeur et qu'on écoute ce matin France Musique, bien sûr, hein, comme tout le monde? Comment ça se passe? Comment, qui contacter? Comment faire pour vous contacter, pour investir l'un de ces projets-là, pour que sa classe, notre classe, puisse se joindre à l'Orchestre National d'Île-de-France?
Alors c'est très simple, on aura beaucoup de plaisir à accueillir. Il faut aller sur le site de l'orchestre, il y a un onglet Action culturelle, et on peut contacter directement la chargée d'Action culturelle, Vanessa Gastov, qui aura plaisir à monter avec, puisqu'on adapte on fait du prêt-à-porter de l'action culturelle, puisqu'on adapte avec nos interlocuteurs ceux à qui on destine l'action culturelle. Est-ce que c'est quelque chose de participatif? Est-ce que c'est quelque chose d'écouté? Pour les seniors, ils préfèrent que ce soit par exemple des conférences la plupart du temps, mais ça n'est pas du tout une obligation. Et on a une multitude d'actions qui sont déroulées, proposées autour de chacun des programmes. Donc autour de toutes les scènes qui nous accueillent en Île-de-France ont une proposition d'action culturelle, et aujourd'hui une grande majorité mène avec nous et à nos côtés des actions culturelles pour faire venir un nouveau public, pour développer le public. Mais il faut savoir que des enfants qui ont suivi l'action culturelle sont en capacité de faire découvrir, et c'est ce qu'on appelle la fréquentation inversée, c'est-à-dire par l'enfant, les parents viennent écouter l'action culturelle et développent par eux-mêmes une carrière d'auditeur.
Et de spectateurs, évidemment, de l'orchestre, parce que vous adaptez aussi votre programmation pour plaire à tout un chacun qui souhaite découvrir cette belle programmation. Je pense notamment aux productions d'opéra. Il y a les opéras en famille, il y a ces siestes en musique. Un petit dernier mot, Fabienne Voisin, sur ces siestes en musique. De quoi s'agit-il ?
C'est le projet 0-3 ans qu'on a souhaité développer cette année. Et ce sont des moments musicaux à partager en famille. C'est des moments très précieux parce qu'on les parents sont aux côtés des tout petits de façon à leur apprendre à écouter, à leur apprendre à vivre la musique, à l'éprouver. Et du coup, c'est des moments partagés qui sont très, très, très sympathiques.
À découvrir. Donc, je crois qu'il y en a même un programmé tout à l'heure à 17h à Alfortville. Fabienne Voisin, j'aimerais qu'on dise aussi un mot sur cette nouvelle collection discographique baptisée Solo. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas souvent entendu parler, si je ne m'abuse. C'est assez nouveau pour un orchestre comme ça de proposer à... Je vous laisse nous dévoiler de quoi il s'agit.
Mais il s'agit tout simplement de reconnaître les musiciens qui forment l'orchestre, qui le font vivre au quotidien.
Et voilà, cette collection... On connaît la masse, mais parfois on connaît moins les musiciens eux-mêmes, individuellement parlant. Genre.
Exactement, qui font œuvre de cette harmonie collective. Eh bien, l'idée de cette collection solo, c'est de montrer les solistes qui composent l'orchestre. Le premier à venir est avec Gheorghi Varba, notre percussion solo, et Sonia Mella, qui est récitante comédienne. Mais c'est aussi grâce au nouveau studio que nous avons créé il y a maintenant un peu plus d'un an, financé par la région, qui permet aux professionnels de venir disposer d'un outil performant aux portes de Paris pour enregistrer la musique et la musique de film.
Un disque à venir avec votre nouveau directeur musical, peut-être, prochainement.
Et oui, qui a été enregistré d'ailleurs dans ce studio, avec Michel De Jong et Simon O'Neill, qui sera consacré à Wagner, qui était le premier concert de Keyes Caglione à la direction de l'orchestre.
On aurait pu encore, Fabienne Voisin, parler des solistes invités. Je pense à Marie-Ange Gucci, Victor-Julien Ferrière, David Cadouche, mais aussi à Michael Barenboim, qu'on entend peut-être un petit peu moins souvent ici en France. Le concours Île de Création, concours de composition dont la finale aura lieu le 30 avril prochain. On aura le temps d'en reparler, évidemment, dans Musique Matin, je vous le promets, mais l'heure, c'est l'heure. Fabienne Voisin, merci beaucoup d'être venue nous voir. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour cette année 2020 avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Et à très bientôt sur France Musique.
À très bientôt.
Quelques notes de ce troisième mouvement du concerto en fa majeur de Georges Gershwin pour le plaisir. Jean-Yves Thibaudet, l'Orchestre Symphonique de Baltimore et Marina Alsop à la direction.
L'heure va être trouvée sur le plateau. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et cette sonnerie annonce l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Nous avions commencé l'année en bulle de champagne avec le Chevalier à la Rose. Aujourd'hui, dans Samedi à l'Opéra, changement complet de registre.
Effectivement, avec Wozzeck de l'Autrichien Alban Berg, nous serons ce soir dans une atmosphère d'une noirceur totale, mais aussi puissamment envoûtante. Wozzeck est une œuvre de rupture qui marque l'histoire de l'art lyrique. Ce n'est peut-être pas le spectacle que je vous conseille pour faire découvrir l'opéra à une parente qui n'en connaît que l'air du Toréador de Carmen ou le Vapensiero de Nabucco. Quoique, quand il fut donné pour la première fois le 14 décembre 1925 au Staatsoper de Berlin, il rencontra tout de suite son public et depuis quasiment un siècle, le succès ne s'est jamais démenti sur toutes les scènes du monde. Judith Chen nous emmène ce soir une fois de plus au Metropolitan Opera de New York où, sous la baguette du Québécois Yannick Nezet-Seguin, décidément l'étoile montante de la direction d'orchestre, se déploie une distribution à la hauteur de la beauté et des difficultés de Wozzeck. En effet, c'est vraiment là qu'il nous faut des chanteurs-acteurs et nous les avons avec en particulier Peter Mattei dans le rôle-titre. Il nous avait scotché dans Amfortas. Il nous entraînera ce soir dans les tréfonds de la folie et du désespoir. L'histoire ? Franz Wozzeck, un ancien soldat, a eu un fils avec Marie qui fut prostituée. Un médecin utilise Wozzeck pour des expérimentations qui lui causent des hallucinations épouvantables. Marie, devant cette folie, s'éloigne de lui, lui est infidèle. À bout de jalousie et d'aliénation, il tue Marie et se suicide en se noyant dans un étang. La dernière scène montre son petit garçon à qui on apprend la mort de sa mère et qui, inconscient, continue à jouer au soleil. Je reconnais qu'on a connu plus joyeux. Mais il y a finalement trois mots clés pour comprendre Wozzeck. Le premier est certainement expressionnisme. Nous sommes au cœur de ce grand courant artistique né au début du XXe siècle, notamment en Allemagne. Ce courant veut donner la pleine mesure de la subjectivité en déformant la réalité et ainsi emporter le spectateur dans un maelstrom d'émotions angoissantes. En peinture, Le Cri de Charles Munch, au cinéma, Nosferatu de Murnau, en littérature, les leurs romans de Kafka nous font entrer dans ces émotions. En musique, c'est un trio de compositeurs qui emporte le flambeau, Arnold Schoenberg, Anton von Webern et Alban Berg, avec ses deux opéras Wozzeck et Loulou, formant ainsi ce qu'on appelle la seconde école de Vienne. Le deuxième mot-clé est évidemment atonalité. On considère Wozzeck comme le premier opéra atonal et donc une œuvre d'avant-garde qui a influencé tout le lyrique contemporain. Il ne se réclame pas encore toutefois du dodécaphonisme qu'il utilisera dans Loulou. Mais un troisième mot vient immédiatement à l'esprit, c'est celui de synthèse. Berg n'est pas un homme de système. Il va mettre 10 ans à composer Wozzeck, organise la pièce de Georg Büchner en 3 actes de 5 scènes chacun. Chaque scène reprend une technique musicale spécifique bien connue, passacaille, gavotte, polka ou fugue, mais chacune des 15 scènes est une œuvre en elle-même et le mélange de ce qu'on appelle des formes classiques transformées avec des approches abstraites, l'utilisation des leitmotifs pour caractériser des émotions et non des personnes comme dans Wagner, le velours du Sprechgesang repris à Schoenberg, tout cela fait de Wozzeck un opéra d'une modernité transcendante mais qui pour autant ne renie rien de ses racines. Pour vous, en attendant le maître et Peter Mattei, je vous propose Das Messer, Wo ist das Messer, le couteau, où est le couteau? Nous sommes à l'acte 3, Wozzeck a tué Marie et il cherche le couteau qui pourrait le trahir. C'est Eberhard Wachter qui chante et c'est Christoph von Dornani qui est à la tête du Philharmonique de Vienne.
Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique, cet avant-goût de l'émission samedi soir à l'opéra avec Judith Chen, donc tout à l'heure sur France Musique. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graut.
Un extrait de cet opéra à découvrir ce soir sur France Musique, Wozzeck d'Alban Berg, ici avec Christoph von Dornani à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Eberhard Wachter dans le rôle de Wozzeck. Voilà qui termine cette émission. Un petit mot sur ce concours que je vous proposais tout à l'heure. Ce matin, je vous offrais des places pour le concert des révélations des victoires de la musique qui aura lieu le 15 janvier prochain ici à la Maison de la Radio, au studio 104 à 20h30. Il fallait deviner de quel instrument jouait le compositeur baroque Arcangelo Corelli? Il s'agissait bien évidemment du violon. Les gagnants seront recontactés très prochainement par email. Il me reste une poignée de secondes pour remercier l'équipe, évidemment. Marie Ferdinand, Laurent Lefrançois, Valérie Lavalard. Et puis merci à vous de choisir France Musique pour ouvrir l'œil chaque samedi. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.